Bonjour à tous. Non, je ne sais pas si je ferme parce que j'ai un coup de froid. Je suis ravi de vous voir, ravi de pouvoir annoncer la parole avec vous. Et c'est un petit peu bizarre parce qu'on sait que quand on va continuer, il n'y aura plus Alain Morino qui va continuer derrière. Mais donc ça va être Fabrice et moi. Et en discutant avec Fabrice, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va enseigner à l'église? C'est une question quand même qui est importante, qu'est-ce qu'on va enseigner? Alors on s'est arrêté sur un livre, qui est un livre de la Bible, et on dit, on va le suivre. C'est quand même plus simple de suivre un livre, et donc au moins on est sûr qu'on va lancer exactement les choses telles que Dieu le dit. On ne va pas chercher quelque chose, un sujet, mais on va vous annoncer un livre, on va prêcher sur un livre qui est 1 Corinthiens. Le premier épître aux Corinthiens. Et Fabrice avait fait une remarque sur un verset qui était très intéressant. Et ce verset, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, qui nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Et vous savez, celui qui a posé le fondement, ici, c'est Alain Morino. Cette église a été fondée il y a plus de 25 ans, et il est venu, lui, et une équipe, pour que cette église puisse être fondée. Et la fondation de cette église, c'est d'être une église, mais une église quoi ? Église biblique. Et donc, on ne va pas poser un autre fondement. C'est-à-dire que quand on va prêcher ici, on va toujours avoir l'enseignement qui vient de la Bible. Parce que c'est le fondement que devrait avoir toute église. Nous ne pouvons pas sortir de la vision du sage architecte. Et le sage architecte, celui qui est vraiment sage, c'est Dieu. C'est sa parole. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu, nous y trouvons toute la volonté de Dieu pour les hommes. Il n'y a rien qui manque. Nous pouvons fonder notre vie sur elle. La Bible annonce premièrement l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu sauve le pécheur de la mort par Jésus-Christ. Il sauve gratuitement tous ceux qui se confient en lui. Et nous pouvons fonder notre vie sur cette bonne nouvelle. Ce même évangile nous rend même conforme à l'appel à la sainteté. Parce que Dieu veut que nous soyons saints, puisqu'il est saint. Et si nous recevons quelque chose de la parole de Dieu, cela va toujours nous pousser à quoi ? À devenir saints. Car c'est l'appel. Nous pouvons donc fonder notre vie sur l'obéissance à la parole de Dieu pour atteindre ce but. Par la Bible, c'est Jésus-Christ même qui s'adresse à nous. Nous y trouverons sa parole, son enseignement, mais aussi son témoignage, son œuvre salutaire à la croix. Depuis l'Ancien Testament, le Messie, le Christ, était déjà le centre d'attention. Même si nous ne voyons que l'ombre dans l'Ancien Testament, il était déjà là. Nous pouvons fonder notre vie sur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le prochain verset qui est juste derrière nous dit tout simplement, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » On l'a chanté tout à l'heure, hein, il est la pierre angulaire. On a chanté notre Bible tout entière pour le monde, tout entier. Ce chant, c'est simplement une proclamation de ce que l'on doit vivre chaque jour et de notre fondement. La Bible, pourquoi la Bible? Parce que c'est la parole de Jésus-Christ. Pourquoi la Bible? Parce qu'elle enseigne tout ce que Jésus-Christ a voulu que l'on sache. Toute la Bible ramène à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous nos enseignements ramèneront à lui et lui seul, à son salut, à l'obéissance de son enseignement, à le suivre dans la sainteté, à l'espérance de son retour. Merci Seigneur déjà, parce que notre Église a Jésus-Christ comme fondement. C'est sur cette base qu'elle a été fondée. Alors restons en lui, restons une Église biblique. Et avant de commencer à prendre notre texte, en 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 3, je vais prier. On va remettre tout ça au Seigneur. Oui, mon Dieu, nous voulons te remercier. Merci parce que c'est toi qui es le roc sur lequel nous pouvons fonder notre vie. C'est toi, Seigneur, qui es l'Éternel, notre abri sûr. Tu es ce corps dans lequel nous sommes rentrés, où nous sommes certains d'avoir toutes les promesses de Dieu. Et nous voulons louer, te louer, mon Dieu. Te louer, Père, Seigneur, parce que tu as planifié cela. Depuis avant la création du monde, tu savais simplement, Seigneur, que nous, les hommes, nous sommes faillibles, nous sommes faibles. Nous sommes si fragiles, si peu de choses. Mais Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés et tu as donné ton Fils. Tu as donné ce qui t'était le plus précieux, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions être en ta présence dans l'éternité. Merci Seigneur, parce que ce salut, il est simple, mais il t'a coûté cher. Et nous voulons nous rappeler le prix de ce salut. À chaque fois, Seigneur, que nous sommes versés dans ta parole, nous voulons nous rappeler que cela t'a coûté à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous te remettons nos cœurs. Que nos cœurs soient prêts à t'écouter, prêts à t'entendre. Que nos cœurs soient prêts à te suivre, surtout, Seigneur, afin de t'être agréable dans tout ce que nous faisons. Que cette Église, mon Dieu, soit un témoignage de ta vie, de ta personne. Que nous puissions être cachés derrière toi dans tout ce que nous faisons. Bénis ce culte, bénis cette Église. Que chaque âme puisse se recevoir selon sa part. Sanctifie cette prière. Amen. Alors, je vous invite à prendre les trois premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on passe très vite les débuts d'épîtres. On se dit, c'est bon, il dit toujours la même chose. Ah, c'est bon, que la grâce et la paix soient sur vous. Parfois, on les passe très rapidement. Mais vous savez, il n'y a aucune phrase, aucun mot qui ne soit écrit par hasard. Chacun de ces mots a un sens. Et ici, dès le début, au premier verset, on voit qui s'adresse à qui. C'est important. C'est Paul et Sosthène, donc, qui s'adressent à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Et il faut savoir que lorsque Paul écrit aux Corinthiens, ce n'est pas n'importe qui leur écrit. Paul, c'est celui qui a fondé l'Église de Dieu à Corinthe. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est lui qui l'a fondée. C'était lors de son deuxième voyage missionnaire. Et il l'a fondée parce que c'était sa mission. Il était appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et un apôtre, il est envoyé. Envoyé pour faire connaître le nom de Dieu. Et vous savez que Paul a été envoyé au milieu des nations. Et Corinthe, c'est au milieu des nations. Donc, il a annoncé le nom de Jésus-Christ à Corinthe. Et le ministère de Paul n'est pas un ministère hasardeux. Il a été annoncé juste après sa conversion, lorsque Jésus-Christ s'est adressé à Ananias, qui devait attendre que Paul arrive, et qui était très fort étonné d'ailleurs que ce soit Paul qui arrive, mais c'est celui qui nous persécutait. Et ce que Jésus avait dit à Ananias, il a dit que sa vie, à Paul, devait être dédiée à porter le nom de Jésus-Christ devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il devait souffrir pour le nom de Christ. C'était l'appel de Paul. Nous, nous sommes chargés de témoigner, mais Paul, c'est particulier. Un apôtre est très particulier. Tout le monde n'est pas apôtre. Un apôtre, lorsqu'il ouvre la bouche, ses paroles viennent directement de Jésus-Christ. Il a reçu tout directement. Et d'ailleurs, lorsque Paul s'est converti, qui s'est adressé à lui? Est-ce qu'il est passé par l'intermédiaire? Est-ce que les apôtres ont été enseignés par un intermédiaire? Directement par Jésus-Christ. C'est toute la différence entre les apôtres et nous. Ça veut dire que le message, il a été clair de Jésus jusqu'aux apôtres. Voilà pourquoi lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire « je ne sais pas si je suis d'accord avec Paul ». On dit quoi? Ce que dit Paul, ça vient de Jésus-Christ. Et ce que dit Paul, c'est donc à prendre en compte comme étant la volonté de Dieu. Il a été mandaté, envoyé par la volonté de Dieu. Et donc sa vie était entièrement dédiée à cela, jusqu'à même ses souffrances. C'était sa mission. Et vous savez comment il exécutait sa mission ? Souvent on pense que Paul, il allait dans les villes et il allait toujours au milieu des places. C'est souvent l'image que l'on a de Paul. Mais vous savez quel est le premier endroit où Paul va toujours ? Dans les synagogues. Tout le temps. Chaque ville où il passe, il y a une synagogue. J'y vais. Pourquoi est-ce qu'il va dans les synagogues ? Ah, aujourd'hui, si vous voulez écouter la parole de Dieu, vous allez où ? Vous allez à l'église. Mais à l'époque, si vous vouliez ouvrir la parole de Dieu, où est-ce que ça se faisait ? Dans les synagogues. Il allait là où la parole de Dieu était ouverte. Donc, l'endroit où il pouvait ouvrir la parole de Dieu et parler des mystères de Dieu qu'il avait reçus. On se dit, mais il va dans la synagogue, pourquoi ? Pour narguer les Juifs ? Non, c'est parce que c'est le lieu où la parole de Dieu devait être annoncée. C'était à l'époque les assemblées bibliques ou les églises bibliques. Il n'allait pas le faire dans un temple qui n'était pas un temple païen. Ce n'est pas un lieu où habituellement ça se fait. Donc quand il rentrait avec la parole de Dieu, est-ce que les gens étaient en train d'écouter ou étaient directement en train de le huer ? Ils écoutaient d'abord. Ensuite, ils le huaient. Mais ils écoutaient d'abord. Parce que c'était normal d'ouvrir la parole de Dieu. Et il va le faire. Après sa conversion à Damas, à Salamine, à Antioche, à Icone. Et à l'époque, c'était encore Barnabas qui était un petit peu le chef de troupe et lui, il suivait. Mais quand il se séparera de Barnabas, il va continuer à le faire. À Thessalonique, à Bérée, à Athènes. Et il va le faire aussi ici, à Corinthe. Et il le fera encore à Éphèse. Il va partout où il peut ouvrir la parole et annoncer Christ. Il prenait temps d'exposer le Seigneur dans les synagogues. Et Actes chapitre 17, versets 1 et 2, je vous l'ai dit, dit simplement que c'était selon sa coutume. C'est un terme qu'il utilisait, c'était selon sa coutume. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faisait. On peut aller juste au verset 2, puisqu'on l'a. Paul y entra selon sa coutume. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il faisait systématiquement ? Il le faisait. Systématiquement. Mais nous allons voir comment il a fait cela selon sa coutume, donc, pour les Corinthiens. Et pour les Corinthiens, ça se trouve juste à l'épître suivant, pardon, au chapitre suivant, chapitre 18. Et on va le lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Comment ça s'est déroulé à Corinthe ? Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Continue. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens, la parole de Dieu. Donc, quand vous regarderez le premier épître aux Corinthiens, c'est bien d'en connaître le contexte. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Corinthiens et pourquoi il s'adresse aussi librement parfois ? Parce que quand il parle aux Corinthiens, il ne veut pas parler d'eau de la cuillère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le livre, mais c'est rude, hein, parfois, certains de ces mots. Mais pourquoi ? Il les connaît bien. Et il les connaît bien parce que c'est lui qui a fondé l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et il avait donné, on peut dire en tout cas, un énorme investissement personnel pour que cette œuvre puisse se faire. Quand il est arrivé, Est-ce qu'il est venu avec un soutien? Est-ce que quelqu'un lui a dit, écoute, on va te soutenir pendant que tu es à Corinthe. Tu vas avoir telle somme par mois. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a travaillé. Il était quoi? Faiseur de tente avec Aquilas et Priscille. Son travail était au service de quoi? De Dieu, pour que la maison de Dieu puisse être élevée. Et il avait commencé par un petit rythme. Verset 4, il n'enseignait que quand? Chaque sabbat. C'est un petit rythme. Que chaque sabbat, après tout. On pourrait se dire ça. Que chaque sabbat. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et on se dit quand même, une fois par semaine, ça donne quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de préparer une étude. Juste une étude, une méditation. De quelques lignes. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça se prépare? Il travaillait, hein, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas qu'il ne faisait rien. Et quand il travaillait, on ne parle pas des 35 heures. On parle du travail de cette époque-là. C'est-à-dire, quand il faut faire le travail, il faut le finir. Et il ne faisait ça qu'une fois par semaine. Chaque sabbat, il discourait dans la synagogue. C'était déjà beaucoup de temps qu'il passait. Mais pour lui, ce n'était pas assez de temps. Et au verset 5, quand il va avoir un peu de renfort, combien de temps est-ce qu'il va passer? Le terme, c'est il se donna comment? Tout entier. Et tout entier, ça veut dire que combien de temps est-ce qu'il lui est resté pour faire autre chose? Zéro. Tout entier. Et quand on prend un ministère, quand on a du renfort, on peut se permettre d'être tout entier. Mais il était quand même assez raisonnable, il a dit, je ne peux pas faire plus au début. Mais si on est plusieurs, si je reçois de l'aide de Silas et Timothée qui étaient venus d'ailleurs, il a pu se donner tout entier. Et c'est la sagesse de Dieu de lui donner d'avoir une équipe. Et vous savez que Paul, il n'était pas tout seul. Il avait une flopée de personnes qui l'accompagnaient. Il y a Timothée, Silas, il a eu un temps Barnabas, il a eu un temps Gaius, il a eu Timothée, il a eu Tite, il a eu plein de gens qui étaient avec lui. Et c'est pour ça qu'il a pu accomplir tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Pour autant, lorsqu'il se donna tout entier, ça a commencé à déranger. Alors on peut quand même supporter un Paul qui prêche une fois par semaine. Mais alors là, tous les jours, il est en train de nous parler de ce Christ-là. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 6? Ils ne vont plus le vouloir. On veut plus ce Christ-là. Les Juifs faisaient alors de quoi? De l'opposition. Quand la parole de Dieu croît, il y a toujours quelqu'un qui va s'opposer. Chacun fait son travail. Le Seigneur envoie les siens, mais il y a aussi un autre qui envoie les siens pour s'opposer. Et il faut toujours s'attendre à une chose. Lorsqu'on veut avancer, il y aura toujours de l'opposition. Quand on veut avancer avec le Seigneur, il y aura de l'opposition. C'est la norme. Pour autant, est-ce que Paul, il a dit, « Bon, ben écoute, hein, j'arrête de prêcher l'évangile. Je crois que ça va déranger. » Il a dit, « Qui sont les plus malheureux, là? Que votre sang retombe sur votre tête. Donc, qui sont les plus malheureux? C'est Paul. Ce sont ceux qui se sont opposés. Ils ne vont pas pouvoir jouir de quoi? De cet évangile qu'il vient annoncer. Sauf quelques-uns. On peut lire la suite au verset 7 déjà. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dans la maison était contiguë à la synagogue. Vous avez une synagogue? Et Justus, il est venu chez lui. Contigu, c'est la maison d'à côté. Donc il est sorti de la porte, il est rentré dans la porte à côté, et il a enseigné juste à côté. Il n'était pas là pour faire de la concurrence, il savait la synagogue, il aurait préféré rester là et enseigner la parole, et puis qu'il puisse continuer à le faire là. Et pourquoi est-ce qu'on l'enseigne ailleurs? C'est parce qu'ils se sont fait injurier, ils se sont fait sortir, et ils ont quand même continué à prêcher l'évangile. Mais où? Chez un homme craignant Dieu. Vous savez ce que c'est un craignant Dieu? Un craignant Dieu, ce n'est pas un juif. C'est un grec qui s'est converti. C'est-à-dire qu'il est parti vers les païens, vers un grec. Et c'est chez les grecs qu'il va enseigner la parole de Jésus-Christ qui était le Messie des juifs. Ce sont donc les plus malheureux, ce sont les juifs ici. Mais pas tous. Au verset 8, il y en a un qui avait bien compris le message de Paul, déjà, c'était le chef de la synagogue. Donc on voit que ce n'est pas le chef de la synagogue qui l'a envoyé, ce sont les autres. Mais Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Il a suivi Paul et plusieurs autres Corinthiens. C'est pour ça que lorsqu'on prêche la parole, il y aura du rejet, c'est une certitude, mais il y aura toujours ceux qui croiront, qui suivront. Et ça peut être n'importe qui. Ici, c'est le chef de la synagogue. Et Crispus, vous allez l'entendre parler dans 1 Corinthiens. Quand Paul va parler, il va dire « Je n'ai baptisé personne à part Crispus et puis la famille de Stéphanas. » Et donc lui, il fait partie de ceux que Paul a baptisés, du petit groupe de démarrage de l'église biblique de Corinthe. Un petit groupe. Paul va continuer à parler. Et pourquoi ? Parce qu'au verset 9, le Seigneur va lui dire, continue de parler. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Et ensuite encore, car je suis avec toi et personne ne mettrait la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est à la fois l'encouragement que Jésus donne et à la fois la mission. Il a dit parle, ça c'est l'ordre, parle. C'est l'ordre qui a été donné à Paul et qu'il a donné quand ? En vision, directement. Parce qu'il parle à son apôtre, il lui parle directement. Et plusieurs fois, Paul va voir des visions comme ça, à laquelle Jésus va s'adresser à lui, parce que c'est son apôtre. Ne parle, ne te tais point. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir. Parle. Pourquoi aussi ? Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et Jésus sait où sont ses brebis. Et il les appelle. Et il les appelle par le biais de Paul, par le biais du message de l'Évangile. Le peuple nombreux dans cette ville qui attend d'entendre le message de l'Évangile. Paul va annoncer aux nations et ici aux Corinthiens. Et Paul va demeurer combien de temps ? Verset 11. 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il va même rester un peu plus longtemps que ça. Mais au moins là, c'est 1 an et 6 mois. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an et 6 mois ? Il a annoncé l'Évangile. Il a enseigné. 1 an et 6 mois. C'est tout. Une seule activité, mais la seule attendue par des prédicateurs. Prêcher la parole de Dieu. Se donner tout entier à l'enseignement de la parole. Pourquoi ? Parce qu'il fallait poser le fondement. Et quand vous posez un fondement, vous ne faites que ça. Vous ne commencez pas à bâtir en même temps que vous posez le fondement. Vous posez d'abord le fondement. Alors ne vous étonnez pas. Si ceux qui doivent suivre à Corinthe, si ceux comme Apollos, qui va venir plus tard, doivent prendre garde à la manière dont ils bâtissent sur ce fondement. Ils devront aussi quoi ? Enseigner la parole de Christ et pas choisir un autre fondement. Nous pouvons avoir tous différents ministères, mais tout ministère doit se baser sur le fondement, sur Christ, sur la parole de Dieu. Et l'enseignement ne doit jamais être négligé. C'est le fondement de la vie chrétienne. Rien ne doit se faire sans elle. C'est pour ça que Paul a passé 1 an et demi à ne faire que ça, et uniquement ça, avant de parler d'autre chose. Il n'a pas parlé d'autres ministères pendant 1 an et demi. Paul, on revient à 1 Corinthiens, chapitre 1er, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Nous avons la lettre ici donc d'un homme qui se soumet à la volonté de Dieu, qui est mis à part. Cette lettre, c'est aussi celle d'un homme qui tient énormément à l'église de Corinthe. C'est lui qui l'a fondée. Il connaît les personnes qui sont là-bas. Son amour pour eux va justement les pousser à écrire cette lettre aux Corinthiens. S'il écrit cette lettre, c'est une lettre, on peut dire une lettre d'amour. Et si vous connaissez Corinthiens, le centre d'un certain passage, chapitre, ça va parler de l'amour. Parce qu'il les aime. Et il les aime et ils veulent qu'ils aient cet amour aussi. Cet amour qu'il a eu du Seigneur. Mais Paul n'écrit pas en disant « à mon église qui est à Corinthe ». Il dit quoi ? Verset 2. « À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il aurait pu dire, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fondé. Mais il est conscient qu'il s'agit avant tout de l'œuvre de qui ? De Dieu. L'Église de Dieu. Il aurait pu aussi écrire à l'Église des Corinthiens. Mais il a écrit quoi ? À l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Il est conscient aussi que l'Église appartient à Dieu et non aux Corinthiens. Ce ne sont pas la tradition des Corinthiens qui vont conduire l'Église, mais uniquement Dieu, et donc Dieu avec sa parole. Surtout que la vie des Corinthiens, si vous connaissez la vie des Corinthiens à l'époque, ce n'était pas la plus belle vie. Il y avait une expression à l'époque qui disait « vivre à la Corinthienne ». Je vous laisse deviner, ça veut dire quoi ? Vivre à la Corinthienne. Si je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas qu'on appelle les habitants de Las Vegas, mais vivre comme à Las Vegas. Vous pensez à quoi ? Une vie de sainteté ? Eh bien, vous savez, vivre à la Corinthienne, c'était la même expression à l'époque. C'est-à-dire que quand on a débarqué à Corinthe, c'était pour faire pas forcément des bonnes choses. C'est le Ibiza de l'époque, le Las Vegas. C'est pour ça que quand il parle aux Corinthiens, eh bien, il parle à des gens qui vivent au milieu de ce monde-là. Et quand il leur parle, il le dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, pas à l'église des Corinthiens, parce que c'est d'abord la parole de Dieu, pas la manière de vivre des Corinthiens qui est amenée là. Ce n'est pas à l'église de s'adapter à la ville de Corinthe, mais c'est à Corinthe de connaître la volonté de Dieu. Et c'est important de le préciser, car il est courant de penser que le message dans les églises doit s'adapter selon les pays, les villes, les cultures, les traditions. Mais dans ses voyages missionnaires, Paul prêche toujours le même thème partout où il va. Qu'il aille à Corinthe, à Éphèse, à Rome, à Jérusalem, à Damas. On peut regarder au verset 23 et 24, qu'est-ce qu'il fait ? Une seule chose. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Et le verset d'après, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc, qui que vous soyez, quelle que soit votre culture, que vous soyez juif, grec, de n'importe quel pays, il n'y a qu'un seul message. C'est Christ crucifié. Il n'y a pas d'adaptation. On n'adapte pas Christ selon les pays. Alors, dans cette lettre, Paul va ramener les Corinthiens à Christ crucifié. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'ils recommençaient à vivre à la Corinthienne. Leur rappeler qu'ils ont été purifiés en Christ. Qu'ils ont été, et si on revient au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Christ crucifié a été prêché au milieu des Corinthiens. Ils ont été sanctifiés par le sang de Christ. Et la vie que Dieu attend de nous qui sommes sanctifiés en Jésus-Christ, c'est que nous sommes appelés à quoi ? À être saints. Et parfois on perd la cible. On se sent appelé à vivre de très belles choses, à être béni, à être, comment on appelle ça, d'avoir Dieu qui accepte peut-être tout ce que l'on demande, mais on est appelé dans ce passage à être quoi ? Il est dit à être saint. Quand vous serez au ciel, la seule chose que vous vivrez, c'est la sainteté. Toutes les choses ici-bas disparaîtront, mais la sainteté, c'est la vie au ciel. C'est un appel, c'est la direction que l'on prend. Alors si un enseignement doit être amené, c'est pour nous pousser à quoi toujours ? À la sainteté. Mais avant d'arriver à la sainteté, il faut déjà avoir été sanctifié en Jésus-Christ. Avoir cru qu'il est notre sauveur, qu'il nous a purifiés de nos péchés. Sinon, c'est une direction qu'on ne peut pas prendre. Car notre direction, celle de l'homme, n'a jamais été la sainteté. Si vous sortez dehors, allez, prenez la fenêtre qui mène sur le monde entier. Ça s'appelle la télévision. Vous l'allumez, ça donne toute la vision de ce que le monde pense. Et quand vous allumez la télé, est-ce que la première chose que vous voyez, c'est la sainteté ? C'est la deuxième ? La troisième ? À quel niveau ? Vous le voyez à un moment donné ? On ne parle jamais de ça. Parce que ce n'est pas la philosophie du monde. Quand vous allumez la télé, qu'est-ce que l'on voit ? Vivre à la Corinthienne. Voilà comment on doit vivre sur ce monde. Vu à la télé. Et c'est ce que voyaient les Corinthiens quand ils sortaient dehors. Une vie à la Corinthienne. Mais dans l'église de Dieu, c'est une vie. À la quoi ? À qui ? Selon Dieu. Comme Jésus-Christ. Tel que Jésus-Christ le demande. Voilà pourquoi nous venons nous assembler ici, pour entendre quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque nous sortons dehors, que nous ne vivions plus à la Corinthienne, mais que nous vivions comme Christ, selon Christ, dans une vie de sainteté. Vous savez, même si nous ne sommes pas de Corinthe, même si nous ne vivons pas à la Corinthienne dehors, tout le monde, d'après ce verset, tous les chrétiens, toutes les églises de Dieu devraient se sentir concernés. Parce qu'il parle aux Corinthiens, certes, mais ensuite il dit, et à qui aussi ? Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur et le nôtre. Donc ça s'adresse à qui ? À tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur. C'est pas ce qu'on fait ce matin. Lorsqu'on a chanté, c'était le nom de qui ? Du Seigneur. Lorsqu'on a prié, on l'a fait au nom de qui ? Du Seigneur. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'était pour qui ? C'était la parole de qui ? Du Seigneur. Et si nous invoquons son nom, tout ce qui est dit aux Corinthiens devrait donc être quelque chose qui nous interpelle. C'est un petit peu, si vous avez une fratrie de plusieurs enfants, vous avez plusieurs enfants, il y en a un qui a fait une bêtise. Vous le grondez devant tous les autres. Comment vont réagir les autres à côté ? Ouh là là ! Ouh là là ! Je crois que j'ai pas intérêt à faire pareil. Ouh là là ! Et lorsque nous regardons Corinthiens, il ne s'agit pas d'imiter ce que les Corinthiens font. Il ne s'agit pas de se caler, les Corinthiens font ceci, ah ben je fais ça. Non, c'est plutôt de se dire, ouh là là, pourquoi ils se sont fait reprendre là ? Ah non, ça on va éviter alors. Et lorsqu'on va regarder Corinthiens, ce livre en tout cas qui leur est adressé, on devrait avoir cette attitude. Car nous devons pratiquer quoi ? Ce qui est enseigné ici, dans l'église de Dieu qui est à Corinthe, mais aussi chez nous, dans le lieu où nous invoquons le Seigneur. Alors ma question, est-ce que vous avez déjà été sanctifié en Jésus-Christ ? Comme Crispus et les autres Corinthiens qui ont cru en Jésus-Christ crucifié et qui sont maintenant appelés à être saints. Est-ce que vous avez déjà dit « Seigneur, purifie-moi parce que je suis un pécheur, parce que mon manière de penser, c'était vivre à moi, à la manière qui est la mienne, mais pas celle qui est selon Dieu ?» Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'appellation « sanctifié en Jésus-Christ », c'est sûrement que vous ne l'êtes pas. Si vous vous sentez à part, en vous disant « mais bon, ça veut dire que je suis différent », non, vous ne l'êtes pas non plus. Il n'y a personne dans cette église qui soit né sanctifié en Jésus-Christ. Personne. Parce que la sanctification, c'est quelque chose qui vient lorsque l'on entend la parole de Dieu, qui nous enseigne Christ crucifié. Son sang versé pour nous à la croix. Et c'est ce que Crispus avait cru. C'est pour ça qu'il a suivi Paul. Il n'a pas suivi Paul parce qu'il le trouvait sympathique. Il a suivi Paul parce que Paul avait annoncé ce salut. Et il voulait continuer à vivre selon cet enseignement. Il n'a pas regardé au fait qu'il était le chef de la synagogue en disant « Mais moi je suis chef de la synagogue, je n'ai pas besoin d'enseignement. » Il a regardé au message de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de son salut. Comme il est écrit, c'est en Jésus-Christ que l'on est sanctifié. Être en Jésus-Christ. On revient toujours à ce fondement. Ce fondement sur lequel cette église a été construite, Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, c'est pour être en Jésus-Christ. Pour continuer à vivre en Jésus-Christ. Mais être en Jésus-Christ a une signification. Ce n'est pas juste un nom. Être en Jésus-Christ, ça pourrait se résumer en un mot. Vous connaissez ce mot ? Non ? Si vous êtes habitant en Jésus-Christ, on vous appellera comment ? Chrétien. C'est chrétien. Si vous êtes habitant de la France, vous êtes français. Vous êtes habitant en Jésus-Christ, vous êtes chrétien. Être en Jésus-Christ, c'est être chrétien. Mais être chrétien n'est pas simplement un mot. C'est une autre manière de vivre, c'est la sainteté. Un changement d'attitude visible. Une vie dans la sanctification. Non, un changement de religion. quand Crispus et sa famille et les autres Corinthiens ont suivi Paul, ils ne se sont pas dit « Ah, on va changer de religion alors. » Ils se sont dit « On le suit pourquoi ? Parce qu'on va aller vers sa sainteté. » Ce n'est pas un changement de religion puisqu'il est allé dans une synagogue pour prêcher. Mais c'est la synagogue qui les ont fait sortir. Un petit peu comme à la réforme. Vous savez comment s'est passée la réforme. Ils sont revenus à la parole de Dieu et qu'est-ce qu'on leur a dit ? Vous êtes des protestants. Vous avez protesté par rapport à ce qu'on enseigne. Donc, on vous met la bulle. Bulle, excommunication, ça ? Excommunion, j'ai plus. Ouais, j'ai du mal avec ça. Sortir. Vous sortez du milieu de nous. Parce que vous n'enseignez plus tel que l'enseigne. Et ils sont revenus à quoi ? À la foi, à Jésus-Christ, à la grâce. Toutes ces choses qui étaient déjà enseignées dans la parole. Parfois, une vie de sainteté est même rejetée, c'est l'Église évangélique. Et là, ça devient un problème. Parce qu'on se fait appeler évangélique. Évangélique, ça veut dire qu'on annonce quoi ? L'Évangile. Donc si vous rejetez la sainteté, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'aime. Et Dieu aime tous les hommes. Ça ne change pas le statut de tous les hommes. Ce qui change la vie des hommes, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez être purifié, avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça va changer notre vie. Tout changera dans notre vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous serons appelés à être saints. C'est notre vocation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est saint, Dieu nous donne des choses. Une sainteté, c'est notre vie, c'est un résultat. Mais pour produire ce résultat, Dieu va donner le moyen. Est-ce que vous connaissez le moyen que Dieu donne ? La parole de Dieu. Mais quelque chose d'un peu, peut-être plus facile à comprendre, quand la parole de Dieu est enseignée, quelque chose vient. Et c'est pour ça qu'à ce début de chaque lettre, Paul va dire que Dieu vous donne ces choses-là. Verset 3. Qu'est-ce que Dieu donne ? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette vie de sanctifié en Jésus-Christ, Dieu le Père et Jésus-Christ font des dons aux hommes. Ils donnent quoi ? La grâce et la paix. Ce n'est pas juste une salutation, hein. C'est pas comme nous, comme en disant ça va. Et c'est juste une manière de parler. Quand il dit qu'il vous donne la grâce et la paix, c'est parce que c'est ça dont ils ont besoin. Et que quand il leur dit, avant de l'enseigner, c'est parce que c'est ce qu'ils doivent recevoir. La définition de la grâce la plus utilisée, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais la grâce, c'est bien plus que de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Parce que parfois, on peut recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas et puis on le range dans un placard. Mais ici, c'est recevoir une vie nouvelle qu'on ne mérite pas. Vous pensez que les hommes méritent de vivre dans la sainteté ? Avec tout ce que l'on fait ? Certainement pas. On passe du péché à la sainteté. On passe des ténèbres à la lumière. On passe de la mort à la vie. C'est ça une grâce. Les Corinthiens vivaient à la corinthienne, c'est-à-dire ils vivaient dans la débauche. Qu'est-ce qu'on s'attendait d'eux ? Qu'ils soient des débauchés. Et ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mais s'ils passent de la débauche à la sainteté, c'est que Dieu a fait grâce pour qu'ils puissent avoir une vie autre, différente. Et si on vous annonce l'évangile, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour vous donner une autre vie. Et c'est pour ça qu'ils disent que pour les Grecs ou pour les Juifs, c'est une folie. Comment est-ce qu'on peut changer de vie ? Eh bien, en Jésus-Christ. Et c'est une grâce. Si un pécheur est capable de vivre la sainteté, c'est une grâce que quelqu'un lui a donnée. Et il dit ici que c'est de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ont oublié ce que Dieu leur a donné. Et ils ont préféré revenir parfois à ce qu'eux, ils vivaient auparavant. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que Paul leur parle. On dit souvent que c'est la première épître aux Corinthiens, mais en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il est dit une chose qu'il avait déjà fait. Un courrier auparavant, je vous ai écrit dans ma lettre, donc pas dans celle-là, hein, dans une autre, de ne pas avoir de relation avec les impudiques, ou dans d'autres versions, avec les débauchés. Donc dans une première lettre, il leur avait déjà dit quoi ? Arrêtez de vivre à la corinthienne. Arrêtez. Et là, il en écrit une deuxième. Et vous savez qu'il y en a encore une troisième. Parce qu'il y avait vraiment un vrai problème chez eux. Le fondement, ils ne s'asseyaient plus dessus. C'était un problème de fond, de fondement. Et souvent, nous, quand on lit Corinthiens, on s'arrête à la forme. Il y a beaucoup de formes dedans. Et on s'arrête à la forme. Mais le vrai problème est un problème de fondement. Ils ont oublié le principal, Jésus-Christ. Alors, il va les reprendre, les corriger. Parce que la grâce, et je vous le lis juste, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce enseigne, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Tite 2:11. La grâce enseigne. C'est écrit. C'est-à-dire que la grâce, elle se fait connaître par quoi ? Par l'enseignement, de la parole. Un changement de vie. Pour renoncer d'abord. Savoir dire non. Savoir dire non au péché. Chose qu'on ne savait pas faire avant. Quand le péché se présentait, on était esclave. Donc on suivait. Mais en Jésus-Christ, on peut dire non au péché. Mais ça ne nous enseigne pas juste à dire non, ça nous enseigne à vivre dans le siècle présent. On ne savait pas vivre. On était mort. On ne savait pas vivre dans le siècle présent. On se corrompait au milieu de ce siècle. On ne savait pas ce qui était sage. Notre intelligence, dit la Bible, était déréglée. On ne savait pas ce qui était juste. On cherchait juste notre intérêt. On ne savait pas ce qui était la piété. On voulait aller au paradis. Mais on ne pouvait pas y aller. Tous sont privés de la gloire de Dieu. C'était notre état. Mais la grâce nous enseigne toutes ces choses qu'on n'avait pas, qu'on ne savait pas. Et j'espère qu'aujourd'hui, chacun a reçu la grâce de Dieu en se disant « Seigneur, merci parce que tu as changé ma vie. » Mais la grâce, c'est une chose, mais il y a aussi la paix. Avec la paix, ce n'est pas comme la paix dans le monde. La paix dans le monde, et je dis toujours cet exemple, c'est quand les gens nous disent « Laisse-moi en paix. » Laisse-moi en paix, ça veut dire quoi ? Viens pas m'embêter. Hein. Toi, va là-bas, et moi, je suis ici, et il n'y aura pas de problème. Ça, c'est selon le monde. Laisse-moi en paix. Je ne veux pas avoir de relations avec les autres, parce que si j'ai des relations avec les autres, ça va être la guerre. Parce qu'ils vont me faire du mal. Parce que tous les problèmes du monde vont arriver. Et on se dit, bon, mais chacun chez soi, et si chacun est chez soi, tout le monde ira bien. Mais la vision de Dieu, c'est quoi ? C'est tous ensemble. C'est la paix selon Dieu. Une capacité à donner la paix avec des gens tous de différentes origines. D'abord des juifs et des grecs. Mais lorsque je regarde dans cette salle, il n'y avait pas que des grecs ici. Et tous dans une même salle. Capables de vivre comment ? En paix. Avec une sérénité. Avancer sans peur. Avoir ce que l'on appelle la communion fraternelle. Sans choisir. Et c'est ce que Dieu nous donne. Il nous enseigne à vivre ce qu'il nous enseigne, cette grâce, ensemble, dans la paix. La sainteté est un changement de vie. Un changement de valeur. Changement de vision. Nous savons aussi des choses que les gens ne savent pas. Pourquoi existons-nous ? Quel est le but de notre vie ? Quelle valeur ont la vie des gens ? Vous savez, c'est des questions que se posent les gens dans le monde. Et nous avons des réponses sur ça. Nous avons des réponses sur des choses que les gens creusent pour savoir. Alors merci Seigneur, parce qu'il nous donne sa grâce et sa paix. et sa grâce et sa paix, c'est cette vie qui nous appelle à la sainteté. Paul, je relis ce texte et on va conclure sur ça, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On reconnaît une église qui est fondée dans la parole lorsque les chrétiens qui la composent progressent dans la sainteté. Lorsque leur vie devienne grâce sur grâce et que la paix est leur manière de vivre. Suivons notre vocation. Mais pour bien suivre cette vocation, faisons la recommandation de Paul. Venons aux enseignements. Écoutez la parole dès que c'est possible. Que chacun de ces moments soit un moment de grâce. Que chacun de ces moments nous éloigne du péché. Que chacun de ces moments soit un moment de paix. Que nous vivions toujours en communion fraternelle. Que chacun donc, et c'est ce que je souhaite à chacun, puisse avoir et grandir en sainteté. Prions. Et mon Dieu, nous voulons te remercier. Merci pour cette vie nouvelle. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés alors que nous étions des pécheurs. Nous étions, Seigneur, égarés, perdus. Nous vivions selon nos propres pensées. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Et Seigneur, tu nous as donné cette nouvelle vie, une vie sanctifiée. Tu le dis, vous serez saints, car je suis saint. Merci Seigneur, merci de nous avoir partagé cela. Merci pour ce don précieux. Et je te prie vraiment que notre Église puisse grandir en sainteté, qu'il puisse, Seigneur, être caché derrière toi, que les gens puissent voir Christ, toi qui es celui qui est saint, juste, droit, qui voit cela en nous, Seigneur. Merci encore parce que tu nous donnes ce privilège d'ouvrir ta parole, car c'est un privilège. Privilège car nous pouvons l'ouvrir librement dans cette salle. Et Seigneur, nous te prions vraiment que ces paroles soient des paroles qui ne soient pas sans effet, mais qui agissent dans nos vies. Que Seigneur, lorsque nous parlions ensemble, lorsque nous sortons, que nous puissions avoir encore des paroles d'exhortation les uns envers les autres, que nous puissions vivre dans la communion. Béni sois-tu, mon Dieu, parce que toutes ces choses, nous savons que c'est ta volonté. Voilà pourquoi nous nous permettons de le demander. Parce que tu nous l'as enseigné. Bénis encore notre Église, bénis la fin de ce culte, que toute gloire te soit rendue, mon Dieu. Sanctifie cette prière. Amen.